Pour inaugurer le cycle de culte conférence 2022 du Foyer de l'âme, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui François Vouga, pasteur, professeur de Nouveau Testament, enseignant dans plusieurs facultés actuellement ou par le passé, à Neuchâtel, à Bielefeld, à Wuppertal, à la faculté vaudoise de Rome, au Québec aussi, et actuellement à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. François Vouga est l'auteur de nombreux ouvrages déployant à la fois les intentions, les contenus et les ouvertures des textes bibliques et des ouvrages sous des formes très diverses jusqu'au dernier qui redonne la plume à l'autrice de l'évangile de Marc. Et l'âme est au rendez-vous dans ton œuvre, François, à plusieurs reprises, particulièrement dans Évangile et vie quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est ta parole que nous écoutons, ta parole vive et forte.
Je vous remercie de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici. Et je dois dire que nommer un lieu comme celui-ci, Foyer de l'âme, c'est en fait commémorer une dimension essentielle, je crois, de la vérité du christianisme, de l'Antiquité et aujourd'hui. Il s'agit en fait de la genèse de la conscience de soi comme vie spirituelle de chaque individu. J'aimerais d'abord vous présenter ce que je crois être l'apparition de l'âme, non seulement dans l'Évangile, mais dans l'histoire de l'Occident. Puis ensuite, esquisser l'histoire de la découverte. Puis ensuite, présenter l'âme comme lieu de l'évangile du bonheur. Je commence par un passage connu de l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas dans votre âme ou par votre âme ou pour votre âme de ce que vous mangerez, ni dans votre corps ou par votre corps ou pour votre corps de ce dont vous vous vêtirez. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vous savez très bien, on entre dans son jardin et, sans faire attention, on piétine une pousse merveilleuse qui n'était pas là, qu'on n'y a pas prévu, et on marche dessus plutôt que de s'émerveiller. C'est ce que font beaucoup de traductions qui traduisent « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et pour votre corps de ce dont vous le vêtirez. » Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est une traduction qui fait une erreur de grammaire et tout d'un coup apparaît ici l'âme comme quelque chose de très particulier et que visiblement les traducteurs souvent n'ont pas prévu, mais qui va avoir une histoire considérable dans ses développements. En effet, apparaît ici, au cœur du serment sur la montagne, l'âme comme un espace personnel, individuel, qui apparaît comme entité propre à l'intérieur de chacun, comme espace personnel, comme espace de délibération, comme espace de décision, comme un espace individuel qui constitue chacun comme sujet, comme espace universel, comme lieu de débat de chaque individu avec lui-même et dans lequel chaque sujet reçoit la grâce de pouvoir être lui-même. Voilà tout d'un coup une grandeur nouvelle, un espace nouveau qui fait son apparition dans l'histoire de l'humanité. Si on veut faire l'histoire de la découverte, alors il est intéressant d'aller jeter un coup d'œil dans les écrits de l'apôtre Paul. Et en particulier dans l'interprétation que l'apôtre Paul donne de la mort de Jésus à partir de l'expérience du relèvement du crucifié d'entre les morts. Paul écrit dans l'Épître aux Galates: Christ nous racheta de la malédiction de la loi, devenu pour nous malédiction, car il est écrit: maudit quiconque pend au bois. Christ nous libéra. C'est-à-dire le crucifié que Dieu a révélé à l'apôtre comme son fils. C'est-à-dire cette expérience que Dieu, la transcendance et la vérité de l'existence humaine habitaient la personne du crucifié et non pas ceux qui, au nom de la justice, ont voulu l'éliminer. La vérité qui apparaît, c'est que l'homme qui a perdu toute qualité, qui avait perdu toute qualité qu'un être humain peut perdre, se trouve reconnu comme fils. Ça signifie, cette découverte essentielle d'une distinction entre les qualités que porte une personne et en fait la personne elle-même, ce qui fait son identité. Ça signifie aussi une distinction fondamentale entre ce qu'on peut voir de quelqu'un et ce pourquoi il est reconnu par le Père. Une distinction entre ce qu'on appellera son extériorité, ce que chacun peut en voir, ce que lui-même peut-être voit de lui-même, et la vérité qui est la vérité de son identité propre et de sa personne. Je ne me réduis pas, vous ne vous réduisez pas à ce qu'on voit de vous, à ce qu'on pense de vous, à ce qu'on peut juger de vous, mais votre être propre est celui reconnu par la grâce de Dieu. Cette découverte, voyez que c'est la découverte que Paul va décrire et interpréter quand il parlera de découverte de la croix ou d'événement de la croix. Cette découverte que l'homme qui avait perdu toute qualité est reconnu comme le Fils, cette découverte d'une distinction nécessaire, fondamentale, offerte entre l'intérieur et l'extérieur, entre la personne et ses qualités, signifie une reconnaissance inconditionnelle de chacun. Une reconnaissance inconditionnelle de la personne de chacun, indépendamment de toute qualité, Blaise Pascal aurait dit, de toute qualité empruntée. Cette découverte d'une reconnaissance inconditionnelle de chaque personne, vous comprenez que pour Paul et dans les églises que fonde l'apôtre Paul, on ne va plus faire de différence entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre handicapés et personnes en bonne santé, entre riches et pauvres, parce que tous sont des personnes reconnues inconditionnellement comme enfants de Dieu. Vous comprenez que cette reconnaissance inconditionnelle signifie la possibilité d'une nouvelle valeur propre du sujet et surtout de la conscience que chacun peut avoir et que chacun reçoit d'une valeur propre qui lui est donnée indépendamment de toute qualité, de toute histoire, de toute appartenance, de toute origine, de toute classe sociale. Je crois pour ma part que cette découverte majeure, une découverte majeure de l'histoire de l'Occident, qui est une découverte que ne pourrait apporter aucune religion, parce que c'est une découverte apportée par une révélation de la transcendance. Je crois que cette découverte est l'explication essentielle de la diffusion très rapide du christianisme dans le monde ancien. L'Évangile apportait aux individus, à chaque personne, une conscience nouvelle de sa valeur et de son identité propre. Ça, c'est, je crois, un premier élément dans l'histoire de la découverte de l'âme. C'est cette découverte chez Paul, thématisée chez Paul, d'une distinction entre personne et qualité, entre intériorité et extériorité, et cette affirmation d'une identité donnée gratuitement à chacun, indépendamment de tout. Une deuxième étape se trouve dans l'évangile de Marc, parce qu'au fond, ce qui apparaît dans l'évangile de Marc, c'est la reprise du terme d'âme pour désigner cet espace intérieur de l'intériorité et de la reconnaissance inconditionnelle et du lieu de débat avec soi-même. Au fond, ce qui est intéressant dans l'évangile de Marc, pour notre histoire de l'apparition de l'âme, c'est de voir que Marc reçoit et valorise cette découverte de Paul, précisément avec le terme d'âme qui nous intéresse. Pour Marc, l'âme n'est plus ce qu'on imaginait dans la tradition de Platon comme simplement une part éternelle de l'individu qui se souvient et qui va subsister à la déchéance du corps, mais qui, au fond, signifie la personne dans son individualité, mais la personne comme unité. L'âme n'est plus non plus une substance éternelle qui, par la spiritualité, peut rejoindre les sphères célestes, comme ce sera le cas dans les textes et la spiritualité gnostique. L'âme n'est pas non plus tout simplement la vie ou la personne, comme on le voit chez Paul, ou quand Paul parle d'âme, c'est simplement pour parler de la personne. Nous habitons dans Paris, et dans Paris est une petite ville de 2700 âmes. Et si je vous dis que c'est une petite ville de 2700 âmes, ça signifie en fait 2700 personnes, et on utilise âme simplement dans le sens de personne ou de vie. Et c'est ce que fait Paul dans ses lettres. Mais l'âme, dans l'évangile de Marc, devient maintenant comme le lieu du dialogue, le lieu d'intériorité du dialogue de la personne avec elle-même. C'est un lieu qui est donné, c'est un don et c'est un trésor de gratuité. Et ce trésor de gratuité, on peut le soigner ou le perdre. Et ce trésor de gratuité se perd au moment où l'on tente de s'en saisir. Si quelqu'un veut sauver son âme, s'en saisir, en faire sa possession, il la perdra. C'est ce qui se passe dans l'instant où l'on tente de prendre possession de ce qui est don et de ce qui est gratuité. Et si quelqu'un perd son âme à cause de moi et de l'Évangile, il la sauvera. Recevoir comme un don, recevoir comme un don gratuit, recevoir de la reconnaissance de la gratuité, alors voilà que l'âme est sauvée. Car à quoi sert-il qu'un homme gagne le monde entier et perde son âme? Vous voyez que pour Marc, comme dans l'histoire du soldat, on pourrait survivre en perdant son âme. Car que donnerait un humain en échange de son âme? Marc reprend l'idée de Paul d'une vie intérieure, lieu de départ avec soi-même, et va réutiliser, recréer ce terme d'âme dans une signification nouvelle, qui est donc le lieu du débat avec soi-même et le lieu où le sujet devient lui-même et prend conscience de son existence comme sujet. Matthieu ne s'arrête pas au point que j'ai décrit tout à l'heure, mais l'argumentation continue. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas dans votre âme, par votre âme, pour votre âme, de ce que vous mangerez, ni dans, par ou pour votre corps, de ce dont vous vous vêtirez. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'engrangent. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. Vous, ne valez-vous pas plus qu'eux? Or, qui d'entre vous peut, en se souciant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et pourquoi vous souciez-vous pour vos vêtements? Apprenez des fleurs des champs. Comme elles poussent, Elle ne travaille ni ne file. Or, je vous dis que Salomon lui-même, au fait de sa gloire, n'était pas habillé comme l'une d'elles. Or, si Dieu vêt ainsi l'herbe des champs, qui fleurit aujourd'hui et sera demain jetée au four, n'offra-t-il pas bien plus pour vous, gens de petite confiance? Donc, ne vous souciez pas en vous disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Or, cherchez d'abord le règne et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc, ne vous souciez pas vers le lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. Suffit à chaque jour sa malice. Très important, et je crois de l'argumentation de Matthieu, le d'abord. Ne cherchez pas d'abord. Et le d'abord pose une priorité et pose une décision personnelle avant que chacun doive affronter les nécessités. C'est-à-dire, ce que nous voyons, c'est l'idée d'adopter une certaine attitude de gratitude, d'émerveillement devant le don de la beauté, avant d'adopter un rapport à soi ou un rapport à autrui. Cherchez d'abord la justice et le règne de Dieu. La justice est un terme central dans l'évangile de Matthieu. Ça s'oppose à ce que Matthieu appelle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est dans l'évangile de Matthieu la volonté, en croyant être religieux, de se faire valoir soi-même, d'adopter une morale ou une religion dans laquelle on a fait l'abstraction de la transcendance, de se poser en centre de soi-même. La justice, c'est accepter le don, voir la beauté, vivre de l'esprit du don et de la reconnaissance. La beauté joue un rôle essentiel dans l'évangile de Matthieu. Et là où on parlerait volontiers des bonnes œuvres, l'évangile de Matthieu préfère parler d'actes beaux. Des actes beaux sont quelque chose d'autre que des bonnes œuvres. On a l'habitude de parler du royaume de Dieu. Et si vous regardez comment Matthieu utilise le terme, vous verrez qu'il vaut probablement mieux parler de règne des cieux, de règne de Dieu. Parce qu'au fond, le royaume laisse entendre qu'on a affaire à un pays, à un espace. Alors on se pose la question, Où est cet espace? Quand cet espace va-t-il s'établir? Alors que le règne de Dieu rend mieux compte de l'emploi que Matthieu fait du terme, parce qu'au fond, le règne, c'est le lieu et l'instant où c'est la transcendance qui règne et non pas nous. Si vous relisez l'évangile de Matthieu, vous verrez que le règne de Dieu est pour l'évangile de Matthieu, comme pour l'évangile de Marc, quelque chose qui s'est approché, qui est une possibilité ici et maintenant, et une possibilité qui règne sur le présent, dans lequel nous ne nous posons plus comme centre, mais recevons la grâce de la beauté et du don qui nous est fait. Cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu. Il s'agit d'adopter une attitude de gratitude, d'émerveillement, et de colorer de cette attitude, ou d'aborder dans cette attitude le rapport à soi-même et le rapport à ce qui nous est donné et le rapport aux autres. Et de l'année, dans la fin du sermon sur la montagne, une sorte de kaléidoscope, du bonheur. Vous savez que le sermon sur la montagne est très bien construit et qu'on a des ensembles construits de manière presque systématique avec 6 antithèses. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, or moi je vous dis, ou bien assez systématiquement, 3 mises en garde contre l'hypocrisie, ou, comme on l'a entendu, toute une argumentation sur de quoi occuper le dialogue intérieur de l'âme. Et alors, d'un bon écrivain, on attendrait une conclusion systématique qui fasse le résumé de tout. Or, nous avons exactement le contraire d'un système. Nous avons, à la fin du sermon sur la montagne, une sorte de vitrail. Une sorte de vitrail d'accompagnement de l'âme s'il s'agit dans son âme, dans son dialogue intérieur, dans le débat que nous menons avec nous-mêmes, de chercher d'abord le règne de Dieu, sa justice, l'émerveillement, la beauté, la gratuité, le bonheur. Alors on nous donne quelques éléments, quelques verres d'un vitrail. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car dans le jugement avec lequel vous jugez, vous serez jugés. Et de la mesure avec laquelle vous mesurez, il sera mesuré pour vous. Première couleur du vitrail. Deuxième couleur du vitrail. Or que regardes-tu la paille, celle de l'œil de ton frère, et la poutre de ton œil, ne la remarques-tu pas? Ou comment diras-tu à ton frère, laisse que je jette la paille hors de ton œil, et voici la poutre dans ton œil. Hypocrite, jette d'abord hors de ton œil la poutre, et alors tu verras à jeter la paille hors de l'œil de ton frère. Troisième couleur du vitrail. Ne donnez pas au saint, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent avec leurs pieds, et s'étant retournés, vous brisent. Couleur suivante, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, Frappez, il vous sera ouvert. Car chacun demandant reçoit, et le cherchant trouve, et au frappant il sera ouvert. Or quel humain parmi vous, à qui son fils demandera du pain, qui lui donnera une pierre, ou aussi demandera un poisson, et lui donnera un serpent? Donc si vous, étant mauvais, vous savez donner des bons dons à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera du bon à ceux qui le lui demandent. Donc, tout ce que vous voudriez que les humains vous fassent, ainsi vous aussi faites-le leur, car c'est cela, la loi et les prophètes. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que ce que je croyais important de vous montrer, c'est d'abord cet élément qui me paraît constitutif du christianisme, de la découverte d'une vie intérieure, vie spirituelle de l'individu, qui constitue la valeur de la personne et qui fait la vérité de l'existence. Et c'est cet espace que décrit l'évangile de Matthieu, individuel, universel, qui me paraît être une découverte fondamentale, résultant chez Paul d'abord, et ensuite chez Marc, et ensuite chez Matthieu, de l'interprétation de la croix. Je ferai une dernière remarque en vous disant que cette découverte de l'âme comme vie spirituelle de l'individu n'est en fait que la mise en mots d'une autre découverte offerte cette fois non pas par des mots mais par des actes à la table de Jésus. Quand ses contemporains traitent Jésus de coinfre et de poivreau, comme le rapportent les évangiles de Matthieu et de Luc, quand ses contemporains traitent Jésus de goinfre et de poivreau, c'est parce qu'il mange chez des gens peu recommandables, avec des gens peu recommandables. D'ailleurs, les évangiles expliquent immédiatement parce qu'il mange et boit avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Et c'est exactement cela que cela signifie, que Jésus, à sa table, ne mange pas avec des vertus, qu'il ne mange pas avec des valeurs, qu'il ne mange pas avec des qualités, mais qu'il mange avec des personnes. Et que c'est cette personne en chaque individu, cette vie intérieure en chaque individu qu'il est en train de créer par son hospitalité. C'est aussi dans l'histoire de la vie chrétienne ce que nous commémorons dans le repas du Seigneur, où le ressuscité vit comme corps dans une communauté dont chacun reçoit chacun et reconnaît chacun inconditionnellement, indépendamment des qualités, et rappelle par cet accueil la vérité de l'Évangile. Que l'Évangile du bonheur nous accompagne. Amen.